J'ai fait jusqu'à présent donc un suivi sur les rétrogrades, n'abandonnez pas l'Église, et c'est la quatrième et la dernière partie de cette série que je fais finir aujourd'hui. Pour cause du Covid-19, le Tour de France n'a pas été très regardé cette année au bord du Tour de France. Mais savez-vous que le nombre d'abandons est historiquement faible cette année, depuis 20 ans? Ça a été un constat des responsables que cette année, le Tour de France n'a pas eu beaucoup de personnes qui ont abandonné le Tour de France. Sur 176 coureurs engagés, au départ, seulement 12 ont manqué à l'appel à Paris. Alors c'est quand même interpellant, où ils sont de plus en plus dopés. Enfin, c'est enregistré, pas grave de ce que je dis parfois, mais ou sinon, eh bien, ce sont devenus des surhommes pour rouler autant de kilomètres que ça. Catherine Boots, je ne sais pas si vous connaissez Catherine Boots, elle n'a pas fait le Tour de France, mais elle a été engagée avec son mari pour l'armée du salut, William Boots, et elle a dit un jour dans un de ses livres, « Tout découragement vient du diable. Tout découragement vient du diable. Abandonner une église peut venir du diable. Le découragement aussi peut venir du diable. Nous avons vu jusqu'à maintenant qu'il existe des personnes qui abandonnent l'église parce qu'elles n'ont pas bien compris le message de Dieu. Nous avons vu aussi qu'il y a des personnes qui abandonnent parfois l'église par l'appel du monde. Je vous rappelle un certain Démas qui a abandonné par amour de ce siècle présent. 2 Timothée chapitre 4, verset 9. Je vous ai parlé qu'il y a des personnes qui abandonnent, qui rétrogradent parfois parce qu'elles refusent l'eau propre de Jésus. Porter la croix, c'est pas trop leur truc. Trop lourd pour moi de porter la croix. Et vous avez deux personnages dans la Bible, Phygel et Hermogène, qui est parlé dans 2 Timothée chapitre 1 aussi. Nous avons aussi des personnes qui abandonnent parfois l'Église parce qu'elles se tournent tout simplement vers l'erreur. Hyménée et Alexandre ont fait naufrage par rapport à leur foi. Alors, quelle est la dernière catégorie qu'on va aborder aujourd'hui? Je tiens quand même à vous signaler que ce sera la première fois que je vais prêcher sur le chapitre que je vais citer après. Il existe une autre catégorie de personnes qui abandonnent parfois l'Église. Ce sont ceux qui ont été blessés. Et en étudiant un petit peu les textes dans la parole de Dieu, je me suis aperçu qu'il y a deux sortes de blessés qu'on rencontre parfois. Tout d'abord, il s'agit des blessés de la vie. Je ne sais pas si vous avez rencontré dans votre vie des personnes qui sont vraiment blessées, qui passent épreuve par épreuve. C'est-à-dire qu'ils ont terminé une épreuve, ils en commencent une autre. On a l'impression que le malheur leur est tombé sur la tête. Et quand vous discutez avec eux, eh bien, j'ai eu l'occasion personnellement de discuter avec certaines personnes qui sont tellement accablées par les situations de la vie que certaines, eh bien, vous disent carrément « j'abandonne, je ne veux plus suivre le Seigneur, Dieu ne fait rien pour moi » ou « ma situation ne change pas, elle reste la même ». Et vous avez ces circonstances qui deviennent tellement lourdes pour certaines personnes qui préfèrent tout simplement abandonner le Seigneur par la vie qui les a accablés par les circonstances difficiles. Alors, sans aucun jugement ni de condamnation, j'ai réfléchi à cela depuis 2 semaines et j'ai trouvé un verset de la Bible qui m'a quand même un peu éclairé l'esprit et je voudrais que vous puissiez vous-même y réfléchir. C'est dans le livre de Job que j'ai trouvé ce verset que je voudrais citer. Il est enregistré, donc vous pouvez le revoir tranquillement à la maison. Mais voilà la réflexion de Job par rapport à la souffrance. Celui qui souffre a le droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Et quand vous le remettez dans son contexte, Job avait vraiment 3 amis. Je ne sais pas si on peut appeler ça de bons amis, mais Job avait besoin un petit peu de la compassion de ses amis. Ils ne l'ont pas du tout donné, la compassion. Quand on regarde, quand on le remet dans son contexte, je me dis, ouais, ses amis auraient dû changer de trottoir ou changer tout simplement de rue à un moment donné, parce que franchement, ils ne l'ont pas aidé. Et Dieu les a même, à la fin, il les a montrés du doigt en leur disant, ben, vous n'avez pas manifesté tellement de bonnes choses vis-à-vis de Job. Et puis, vous avez les blessés dans l'église. Je ne sais pas si vous en connaissez. Personnellement, j'en connais des fidèles, des personnes qui ont été blessées par d'autres personnes. Et vous en connaissez peut-être, j'en ai connu quelques-unes dans mon existence, mais vous avez des personnes qui se sont retirées dans l'église, voire de leur foi, à cause de mauvais comportements d'autres chrétiens. Et je me dis, des fois, c'est difficile de faire le constat, de discuter comme ça avec certaines personnes qui partent de l'église parce que, tout simplement, dans l'église, il y a des personnes qui ne se sont pas bien comportées. Et à cause de ces personnes-là, eh bien, les gens partent tout simplement de l'église. Ce sont des victimes, plus à plaindre qu'à blâmer, mais en même temps, nous découvrons dans la parole de Dieu qu'il y a un chapitre, je ne sais pas si vous connaissez ce chapitre, c'est Ézéchiel, chapitre 34. Et vous avez dans ce chapitre toute une sorte de... C'est assez émouvant ce chapitre, j'ai relu ce chapitre plusieurs fois, et qui montre que le Seigneur parle de brebis faibles, malades, blessées, s'égarant, perdues, maltraitées, et donc les bergers ne s'en occupent même pas. Alors on va essayer de regarder un petit peu pourquoi ces brebis sont dispersées, errantes, et deviennent la proie de toutes sortes de bêtes des champs. Nous avons une image intéressante ici dans ce chapitre qui parle de l'Église en règle générale, mais nous voyons aussi que ces brebis qui sont parlées là dans ce chapitre, eh bien c'est la cause à cause de certaines personnes. Vous avez les mauvais pasteurs, vous avez les boucs et les béliers. Et vous avez aussi, dans ce chapitre, les brebis grasses. Alors, on va essayer un petit peu, si vous voulez bien, analyser tous ces personnages, tous ces animaux qui sont écrits là, dans ce chapitre, mais en même temps qui montrent bien que parfois c'est tragique de constater que l'Église, des fois, ne fait pas son job. L'Église, parfois, ne fait pas son boulot. Et on s'aperçoit de plus en plus quand on avance, quand on écoute, quand on regarde certaines personnes sur Internet ou pas, eh bien que parfois certaines personnes ne font pas ce que le Seigneur leur demande de faire. Il y a tout d'abord, le Seigneur vise d'abord les pasteurs, les mauvais pasteurs. Est-ce que vous pensez qu'il existe de mauvais pasteurs ? Le Seigneur en parle. Si le Seigneur en parle, c'est que quelque part, il y a des personnages qui sont considérés comme des mercenaires. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit dans la parole. Il y a de bons pasteurs et il y a de mauvais pasteurs. Et nous, en tant qu'Église, en tant que personne, nous devons voir quand il y a une mauvaise personne, un mauvais responsable, qui dit des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, et surtout sur Internet. Quand on regarde parfois sur Internet certaines personnes qui mettent la Bible sur un pupitre, qui se promènent à droite, à gauche de ce pupitre, et que jamais ils ne citent un verset de la Bible, je me dis, mais à quoi bon mettre une Bible sur un pupitre et ne pas la citer? Moi, je voudrais quand même vous citer la Bible, Ézéchiel chapitre 34, les versets 2 à 6. « Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissent eux-mêmes, qui n'avaient point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées, et vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues. Elles sont dispersées, mon troupeau est errant. » Voilà ce que Dieu dit à ces personnes qui se considéraient comme des bergers, et en réalité, elles sont devenues malheureusement dans nos églises parfois, et en Israël, des mauvais bergers. Elles ont préféré disperser au lieu d'essayer de ramener ces personnes à la bergerie. Un pasteur a pour responsabilité, un pasteur ou un ancien a la responsabilité de donner de la sécurité spirituelle. Imaginez qu'un berger tape constamment ses brebis. À un moment donné, je suis persuadé que la brebis va partir. Que vous le vouliez ou pas, à un moment donné, la brebis va partir. Le rôle du responsable ou des anciens, c'est de garder, de conduire, de nourrir le troupeau, d'être intentionné vis-à-vis de lui. Nous devons prier, nous, en tant qu'Église, qu'il y ait un bon berger que le Seigneur a envoyé afin de garder, de conduire et de nourrir le troupeau. Nous devons prier pour de la qualité et non pas pour de la quantité. Je refuse cette idée de croire qu'une Église, au plus elle est grande, au plus elle est spirituelle. Deuxième catégorie, les autres responsables, les béliers, les boucs. Ce sont des personnages qui sont cités dans Ézéchiel, chapitre 34, et les versets 17 et 19. « Et vous, mes brebis, aussi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage pour que vous fouliez à vos pieds le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide pour que vous troubliez le reste avec vos pieds? Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. » On va essayer d'analyser un petit peu ces quelques versets. C'est vrai qu'il est là une comparaison un petit peu particulière. Dieu fait la différence entre brebis et brebis. Dans un troupeau, il y a parfois des béliers, des boucs. Donc il y a vraiment une différence. Je ne sais pas si vous connaissez la différence entre un brebis et un bélier, entre un brebis et un bouc. Il y a une réelle différence. Dieu les a fait différents. Mais au regard de ce que Dieu dit dans ce passage, eh bien, il est montré que certaines personnes sont considérées dans ce passage comme des personnes qui montrent qu'ils donnent de la nourriture. En réalité, quand ils arrivent à la maison, ils écrasent. Ils montrent qu'ils sont des responsables, mais dans le fond, ils ne le sont pas, c'est-à-dire ils foulent au pied le reste de leur pâture. Alors je ne sais pas si vous pouvez imaginer un instant ce qu'ils sont en train de faire, mais quelque part, ce sont des personnes qui sont toujours dans mon esprit et dans ce que je comprends dans le texte, toujours dans la critique. C'est-à-dire que malgré le fait qu'ils entendent la parole de Dieu, malgré le fait qu'ils soient enseignés par la parole de Dieu, ce sont des gens qui refusent l'enseignement. Tout ce qui est dit n'est jamais bon à leurs yeux. Trop petite. Pas assez grande. Trop maigre. Trop grosse. Trop moche. Pas assez riche. L'Église ne sera jamais à leurs yeux, à leur goût. Et on constate que parfois, il y a des gens qui sont toujours dans la critique. Et je m'aperçois que le Seigneur, bien sûr, et je crois que la critique doit être constructive, mais quand la critique est donnée dans un but de détruire, je pense que nous devons apprendre à être sages avec nos paroles. Quand les paroles sont lumière, eh bien ça doit faire construire. Quand une parole est mauvaise, et bien souvent malheureusement elle est donnée mauvaise, eh bien elle n'est pas toujours à la gloire de Dieu. Ça m'a fait penser, cette histoire de parole, le mépris que la nation d'Israël a eu pour la manne. Je ne sais pas si vous vous rappelez le mépris que Israël a eu pour la manne. Je voudrais juste vous rappeler que tous les jours, Israël avait la manne. J'ouvrais la porte et j'avais à mes pieds deux baguettes de pain. Tous les matins, il y avait à la porte de la nation d'Israël deux baguettes de pain. Enfin, ça c'est parce que je suis un bon français que je parle de baguettes de pain. En Israël, ils ont méprisé le gâteau à huile. J'ai jamais mangé des gâteaux, mais pas à l'huile. Mais ils ont méprisé la manne que le Seigneur leur donnait tous les jours. Mais vous savez, on est un petit peu pareil parfois. On méprise la manne que le Seigneur nous donne au quotidien. Je voudrais vous rappeler Nombre chapitre 11, versets 4 et 6. Les ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël furent saisis de convoitise. Saisis de convoitise. Omer et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ?»« Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des oreilles. Maintenant, notre âme est desséchée. » Plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. C'est pas du mépris, ça. C'est pas du mépris vis-à-vis de Dieu qui les avait sortis de l'esclavage. C'est pas du mépris, n'est-ce pas, parfois, par rapport à la critique facile, parfois, dans l'Église, trop petite. Pas assez grande, trop maigre, trop grosse, trop moche, pas assez riche. Pas assez de place. L'Église n'est jamais au goût de personne. Bien souvent, on voudrait l'Église à notre convenance. Mais c'est parce que le Seigneur dit. L'Église doit être à la convenance du Seigneur. L'Église doit rester biblique. L'Église doit rester sainte. Il y a des prédicateurs qui ont prêché sans micro. Il y a des prédicateurs dans l'histoire de l'Église n'ont pas eu besoin d'une télévision pour apporter des âmes au Seigneur. Et je pense que souvent, on tombe dans cette idée que critiquer va faire du bien. Mais je pense que ce n'est pas toujours à la gloire de Dieu. Quand on regarde la nature, c'est vrai qu'il y a de la différence entre un bouc et une chèvre, entre un bélier et une brebis, entre un cabri et un ovin, c'est vrai qu'il y a de la différence. Mais croyez-moi que chacun a son caractère. Et il faut savoir adapter parfois par rapport à certaines situations. Je pense qu'on devrait apprendre à être un peuple non pas capricieux, mais un peuple qui aime la parole de Dieu, un peuple qui met la parole de Dieu en avant, un peuple qui est obéissant à la parole de Dieu. Et ne pas l'oublier dans notre cœur. Dans beaucoup de pays, ils n'ont pas de micro. Dans beaucoup de pays dans le monde, vous n'avez pas le privilège d'avoir un bâtiment qui est au-dessus de votre tête. J'ai un ami qui s'appelle Evan Drake, certains le connaissent peut-être, il est missionnaire au Togo, il prêche parfois dans des cabanes. Vous savez, ici, prêcher dans une cabane, il y a beaucoup de gens peut-être qui ne se déplaceraient plus. Nous sommes un peuple privilégié, nous avons un beau pays. Et je le conçois de tous les jours quand j'avance avec le Seigneur que c'est vrai que la France n'est pas parfaite. Mais quel beau pays! Quel beau pays! Quel privilège! Quelle liberté ai-je d'aller à l'église le dimanche matin? Troisième catégorie, c'est les responsables qui sont montrés du doigt, les brebis grasses. Versets 20 et 22. Voici, dit encore Dieu, je jugerai entre les brebis grasses et les brebis maigres, parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles jusqu'à ce qu'elles les ayez chassées. Je porterai secours à mes brebis afin qu'elles ne soient plus au pillage. Voilà ce que le Seigneur dit dans ce passage. Quelle tristesse parfois de constater que un chrétien est une occasion de chute pour un autre. Quelle tristesse de voir parfois dans notre milieu évangélique des pharisiens qui mettent leur connaissance plus en valeur que ce que la Bible nous dit de faire. Quelle mépris parfois de voir que certaines personnes se considèrent comme des brebis grasses et oublient les brebis maigres. Parce que tout simplement, elles ont un diplôme qui a dépassé un petit peu leur cervelle à un moment donné. La Bible ne dit-elle pas « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres » C'est ce que je trouve dans la parole, dans Hébreux chapitre 10, verset 24. Veillez les uns sur les autres. Il n'est pas dit, expose ta connaissance, ou expose ton diplôme. Non, non. Veillez les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Voilà ce qui est dit dans la parole de Dieu. Alors, quelle est notre responsabilité vis-à-vis de ces personnes qui parfois partent dans nos églises? Parce qu'il faut le constater, parfois certaines personnes partent dans nos églises. Je dirais le premier constat que j'en ai eu dans mon ministère personnel en tant que pasteur, c'est la prière. Le Seigneur m'a appelé, c'est vrai, dans un ministère pastoral, et je suis consacré à ce ministère pastoral. Mais là où j'ai eu le plus de victoires, c'est quand je me suis mis à genoux devant le Seigneur. Et on peut tous témoigner ici que quand on a des moments difficiles, quand on se met à genoux devant le Seigneur et qu'on expose nos problèmes devant le Seigneur, eh bien, le Seigneur nous rappelle qu'il est là, il est présent dans ces moments-là et qu'il est là pour nous donner de l'abondance. Jean Calvin a dit un jour... La prière est la principale exercice de foi. Moi, je vous encourage à prier. à prendre du temps à prier, à venir prier avec le Seigneur. Dieu veut manifester son bras au travers de la prière, mais si on lui demande rien, il ne manifeste rien, Dieu. Spurgeon disait que l'intercesseur est semblable à un homme qui tire la cloche pour actionner la cloche du clocher dans le ciel. Il tire la corde en bas et la cloche sonne en haut auprès du Seigneur. La question que je me suis posée quand j'ai lu cette histoire, combien de fois, Nicolas, tu tires la cloche dans le ciel? On se contente parfois d'une fois par mois. On se contente parfois une fois par semaine. On se contente parfois de temps en temps. Je vais tirer la cloche du ciel parce que je passe par un moment difficile, je passe par un moment d'épreuve dans ma vie, mais tant que je ne passe pas par un moment difficile, je n'ai pas besoin de tirer la cloche dans le ciel. Et le Seigneur nous le rappelle que nous devons tirer avec force, avec persistance, sans relâche. Souvenez-vous de la veuve, sans relâche. Elle est allée embêter le juge unique qui ne voulait pas répondre à sa demande. Sans relâche, elle est allée tirer la cloche de ce juge pour qu'elle entende. Nous avons besoin de nous rappeler que vos enfants, tant qu'ils ne sont pas en Jésus-Christ, vous devez tirer la cloche du ciel. Jusqu'à la fin de votre vie, vous devez tirer la cloche du ciel. Vous êtes responsable de tirer la cloche du ciel pour vos enfants. Le jour où ils ont accepté Jésus-Christ, passez à quelqu'un d'autre, à un ami, à un parent, à un voisin peut-être. Mais nous sommes responsables de tirer la cloche du ciel. Et pas qu'une seule fois, par mois. Regardez la parabole du fils prodigue. Le père, il a attendu. Hein. Mais c'est pas merveilleux de voir que le père s'est réjoui quand il a vu son fils revenir. Ça n'a pas réjoui son frère. Hein. C'est un constat. Son frère n'était pas dans la joie. Mais par contre, le père, et lui, a fait le beau froid hein, quand il a vu son fils revenir. Et je pense que nous avons besoin de nous rappeler que Dieu parfois nous répond de suite à la prière. Mais Dieu parfois nous dit, écoute, attends. J'ai besoin d'un certain temps. Cette personne a besoin d'un certain temps pour revenir à moi, pour revenir à la bergerie. Donc la prière est quelque chose d'important. Je voudrais vous dire, n'abandonnez pas la prière. N'abandonnez pas vos réunions de prière. N'abandonnez pas le temps que vous prenez avec le Seigneur dans votre chambre. N'abandonnez pas le culte que vous faites avec vos enfants. N'abandonnez pas le temps que vous passez avec le Seigneur. C'est important de prier. Deuxième conseil, une éventuelle intervention personnelle. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui le ramènera, un pécheur de la voie ou qui s'était égaré, sauvera une âme de la mort et il couvrira une multitude de péchés. Jacques chapitre 5 verset 19 et 20. C'est beau de voir quelqu'un qui revient à l'évangile. C'est beau de voir quelqu'un qui est revenu à la bergerie. C'est beau de le voir. Et nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Il y a la même idée dans l'Ancien Testament, ce verset m'a fait rigoler. Alors je vais vous le citer simplement. « Si tu vois s'égarer un bœuf et une brebis de ton frère, tu ne t'en détourneras point, tu le ramèneras à ton frère, tu feras de même pour son nan. C'est bien de ramener à la bergerie un bœuf et une brebis, mais c'est bien aussi de ramener à la bergerie un bourricot. Pardonnez-moi de cette expression, mais le Seigneur nous demande parfois de ramener l'âne de notre voisin. Je ne sais pas si vous avez déjà marché à côté d'un âne. Un âne, c'est un âne. Hein. Pour qu'il obéisse, c'est parfois difficile. Je me souviens une fois une expérience que j'ai vécue à Matagna. Et on avait là des enfants en responsabilité. Et ce temps était avec un bourricot, avec un âne. Les enfants montaient dessus, descendaient, montaient, et puis le responsable nous a dit, ben, pour le faire avancer, vous avez une certaine manière, donc il y avait des petits bruits, des petits coups de bâton qu'on devait lui taper un petit peu pour avancer. Mais cette âne, qui était sous notre responsabilité, sa seule envie était de manger. Tout ce qu'il voyait autour de lui était de manger. Rien à faire avec l'histoire d'avancer. J'ai dû le taper plusieurs fois, gentiment, avec amour, pour le faire avancer. Je lui disais, je lui parlais même à son oreille, j'ai des enfants en responsabilité. Tu dois avancer. Mais malgré ça, il avait envie de manger. Sa seule préoccupation était de manger. À un moment donné, je me suis même posé la question si son maître lui avait donné à manger avant de me le passer, cet âne. Eh bien, oui, parfois, on a besoin de nous rappeler cela. Si tu vois quelqu'un qui est égaré, loin de la vérité, essaye de le ramener. Si c'est possible. Si c'est pas possible, laisse-le entre les mains de Dieu. De toute façon, sachez-le, les portes du ciel sont toujours ouvertes pour les personnes qui s'éloignent de Dieu. Dieu est un Dieu de grâce. Dieu manifeste sa grâce jusqu'à ce qu'il a décidé que c'est la fin. C'est pas encore la fin. Troisième conseil, l'Église a un combat à mener. Est-ce que vous le comprenez ça? Que l'Église de Jésus-Christ a un grand combat à mener. Il y a certaines fois, l'Église elle est mise sur le repos. Mais il y a des fois où on constate que ben, c'est pas toujours le repos. Il y a parfois des personnages qui s'appellent Abimélec dans la Bible, Exode chapitre 17, qui est venu faire la guerre à Moïse. Et il n'a pas voulu laisser tendre cette histoire. Non, non, il a voulu faire la guerre à Moïse. Mais voilà, la Bible nous dit que Moïse est monté sur la montagne. Aaron et Hur étaient avec lui. La Bible nous dit que Josué et le peuple étaient dans la plaine. Qu'est-ce que Moïse, Aaron et Hur faisaient sur la montagne? Ils levaient les mains. Enfin, Moïse a levé les mains. Tant qu'il n'était pas fatigué. Et puis il y a eu besoin d'un Aaron et d'un Hur qui est venu à côté pour soulager Moïse. Et tant que Moïse avait les mains levées, le peuple gagnait avec Josué. Mais est-ce que vous comprenez l'image de la prière? Est-ce que vous avez les mains levées pour le Seigneur? Est-ce que vous ne voulez pas voir le Seigneur agir dans votre vie? Mais moi, je me dis, mais j'ai envie de lever les mains tous les jours. Même si je suis fatigué, je suis prêt à mettre un petit trépied en dessous de mes bras pour laisser les mains au mot ouvert. Mais le Seigneur nous a donné toutes les armes dans l'Église. La vérité pour ceinture, Éphésiens chapitre 6. La cuirasse de la justice. Les chaussures du zèle que donne l'Évangile de paix. Le bouclier de la foi, le casque du salut, et enfin l'épée de l'esprit. Nous avons toutes les armes pour combattre le diable, pour donner de la délivrance, pour donner de l'assistance. Le Seigneur nous a donné toutes les armes par la parole de Dieu. Et enfin, le quatrième conseil, c'est de la vigilance personnelle. Voici ce qui est dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. Ainsi donc que celui qui se croit être debout prenne garde de tomber. Vous savez qu'on n'est pas mieux ou meilleur que ceux qui partent parfois, qui abandonnent l'église. Parce que nous pouvons tous tomber ici. Hein. Nous pouvons tous tomber un jour. Hein. Tomber dans le péché. Tomber dans une situation qui nous éloigne de Dieu. Dire, mais Dieu fait rien pour moi. On peut tous tomber. Tous. On n'est pas parfait. On peut dire à un moment donné, par la convoitise, c'était mieux avant. C'est à la mode ça, c'était mieux avant. Je renie les poissons, les concombres, les melons que j'avais en Égypte. Ouais, mais dans le texte, il n'est pas dit qu'ils ont oublié les quelques coups de fouet qu'ils recevaient de temps en temps pour aller chercher les melons, les concombres et tout le reste. Ils ont méprisé la manne. Le texte nous dit qu'ils ont méprisé le gâteau à huile. C'est quand même fort de voir qu'une nation peut s'éloigner de Dieu assez rapidement. Mais nous sommes tous pareils. Hein. Nous pouvons nous éloigner de Dieu si nous ne prenons pas garde à nous-mêmes, à avoir une attitude de modestie, de prudence et surtout de vigilance. À moi, ça m'arrivera jamais. Hein? Vous connaissez cette expression ? Moi, je tomberai jamais. J'aurai jamais d'accident. J'aurai jamais tel ou tel problème. Je pense qu'il faut avoir un petit peu de modestie parfois. Un petit peu de la prudence et surtout de la vigilance. De demander au Saint-Esprit de nous diriger, de nous conduire dans une bonne attitude avec le Seigneur. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. Voilà ce que Osée constate dans Osée 11, verset 7. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. Vous savez pourquoi le peuple s'éloignait de Dieu ? Parce que la Bible n'était plus mise au centre de leur existence. Parce que Dieu était devenu quelqu'un de secondaire. Dieu était mis au repus. Je dirais, on n'appelait Dieu que quand on en avait besoin. Et je pense que parfois nous avons besoin, nous en tant que chrétiens, de nous le rappeler. Oui, Dieu manifeste sa grâce et il va la manifester jusqu'à la fin avec un grand G. Mais n'oublions pas de ne pas mépriser ce que Dieu nous donne parfois. Et nous avons besoin de nous le rappeler au quotidien. Amen. Amen.